18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour, bonsoir, quel plaisir de vous retrouver dans Les Informés, vous le savez, quotidiennement ici même, ici, ça se passe. On commente, on analyse et on décrypte l'actualité alors que vous êtes en train de vivre, pour beaucoup d'entre vous, le match en direct, en ce moment même, avec des prolongations, le Maroc face à l'Espagne, au Qatar à Doha. Vous le savez, vous pouvez nous appeler tout à l'heure pour nous dire comment vous vivez ce match au 01 53 48 3000 à partir de là maintenant, si vous le souhaitez, pour passer à l'antenne et commenter, nous dire évidemment quelles sont vos impressions. En tout cas, on peut dire que là, il y a véritablement du lourd. Eh bien, les sujets qu'on vous propose ce soir, beaucoup de choses, chers amis auditeurs. Nous irons d'abord nous intéresser avec une interview exclusive concernant, vous savez, eh bien, une inauguration d'un tout nouveau Sahara en Algérie, dans le sud algérien, avec un spécialiste, Jean-Philippe Allaire-Trègue, qui sera avec nous pour venir parler de ça. Et ensuite, après, vous savez, le quoi de neuf avec le docteur Majid Soussine, lui viendra nous livrer son regard sur l'actualité, toujours comme d'habitude, de façon évidemment satirique. Et puis, le face-à-face avec nos débatteurs, deux grandes gueules, je dois le dire, effectivement, attention, Putsch Media, Nicolas Vidal, face à un conseiller régional, Philippe, Nadji Boyeki, j'allais dire Jean-Philippe Nadji Boyeki, je veux que je remixe son nom. Je kiffe. Il est en face de moi en plus. C'est trop marrant, c'est trop drôle. Il a remis le masque, lui. Tout à l'heure, on posera la question. Tiens, justement, les sujets qui ont retenu notre attention. Masque ou pas masque, le Covid qui repart. Bref, on en parle ce soir. On parle aussi des risques de coupure d'électricité. Doit-on craindre le pire dans les semaines à venir? On parlera de l'immigration, la énième loi sur l'immigration, finalement. Et Gérard Darmanin qui dit que, effectivement, il y a ceux qui bossent. Et puis le reste, eh ben on les expulse. Eh ben on en parlera tout à l'heure. Et la guerre en Ukraine avec à la fois Zelensky qui nargue Poutine et Poutine, vous savez quoi, qui se rend en voiture lui-même en conduisant sur le pont de la Crimée. Eh bien, j'avoue que tout cela est bien riche pour vous nourrir et venir commenter cette actualité. Voilà ce que je vous propose. Les Informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti, vous le savez, comme chaque soir d'ailleurs, l'interview du jour.
Les Informés, l'interview.
Et l'interview, vous le savez, c'est avec ce soir, eh bien, nous allons nous rendre dans le sud algérien, un désert, avec Jean-Philippe Allaire-Trègue. Bonjour Jean-Philippe Allaire.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, comment allez-vous tout d'abord?
Eh bien, ça va bien, je suis revenu dans le froid dur, dans le brouillard parisien, après avoir été sous le soleil de Timimoun.
De Timimoun. Alors, justement, vous rentrez dans quel état d'esprit, justement? Je sais que vous avez passé plusieurs jours là-bas, notamment, j'ai eu quelques échos. Vous, qu'est-ce que vous en tirez, justement, de ce séjour, mon cher Jean-Philippe Allaire-Trègue?
Ben alors en fait, ben j'en reviens déjà avec des images plein les yeux, c'est-à-dire des images de dunes, des images de paysages assez incroyables, des images de soleil éclatant et puis des images de sourires et d'accueil formidables, puisque les preuves que l'on a organisées à Timimoun cette dernière semaine, où il y avait des participants internationaux et des participants algériens pour cette épreuve un peu d'exception, en fait, a produit que du positif, des sourires, bien sûr un peu de fatigue pour les coureurs, mais surtout des sourires et des paysages magnifiques. Donc, tout est positif et on peut dire que cet événement a été un vrai succès.
Alors, vous représentez une agence notamment, hein, il faut le dire à nos auditeurs.
Alors, moi, je représente l'organisateur de cet événement sportif, qui est une course extrême.
Voilà, il faut qu'on en parle, c'est pour la raison pour laquelle vous êtes là ce soir, hein.
Voilà, exactement. Et donc effectivement, la société que j'ai créée organise depuis une dizaine d'années aujourd'hui des courses extrêmes dans des environnements qui peuvent paraître hostiles, mais qui sont magnifiques et qui sont en l'occurrence des déserts, des dunes, des déserts de pierre, des déserts de dunes. Et cette société donc, s'appelle Trail Africa Organisation et son objectif, c'est d'organiser des épreuves incroyables dans des environnements plutôt inédits.
Alors j'imagine que le Sahara, le désert algérien, justement a retenu votre attention. Comment vont s'organiser justement ces événements de sport extrême? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et comment comptez-vous justement, dans quel enjeu s'inscrit tout cela, mon cher Jean-Philippe?
Alors, en fait, déjà, ça fait longtemps qu'on avait dans l'idée de venir organiser ce type d'épreuve en Algérie. Il y en a à peu près partout dans le monde. En France, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc, que tout le monde, que beaucoup de gens maintenant connaissent. La Diagonale des Fous à La Réunion, c'est des environs en montagne. On connaît aussi le Marathon des Sables, qui se déroule chez votre voisin. Et donc, il y a eu une vingtaine d'années des épreuves qui se sont déroulées du côté de Janet. Mais cette année, c'était vraiment la première fois qu'on faisait une épreuve de longue distance en environnement désertique, en autonavigation et autosuffisance, et organisée à la fois pour les internationaux et pour les coureurs locaux. Donc c'était une première et je crois qu'elle a bien fonctionné. Elle s'inscrit, je crois, également dans le rapprochement et dans la volonté d'ouverture de l'Algérie vis-à-vis des touristes et vis-à-vis des touristes sportifs en particulier pour ce qui nous concerne.
Justement, la question, est-ce qu'il y a un véritable enjeu justement dans les événements que vous organisez? C'est quoi la dimension que vous voulez leur donner, cher Jean-Philippe?
Alors, il y a une dimension sportive, hein, puisqu'on n'improvise pas ce type d'événement. Il faut parcourir, pour les plus endurants, 180 km en non-stop. Ça dure 72 heures. Et je crois que le point essentiel, important, c'est de faire découvrir des endroits d'exception. Hein. Il faut que le paysage et que l'endroit dans lequel les coureurs vont évoluer soit un endroit d'exception avec des paysages de ouf. Mais surtout, c'est un aspect de partage. C'est-à-dire, c'est finalement des passionnés du même sport. Un peu comme, alors en toute modestie, mais un peu comme les Jeux Olympiques où on rassemble finalement toutes les nationalités et on met un peu nos différences de côté pendant ces périodes. Mais en fait, les événements que l'on organise, ça a aussi pour but de rapprocher les personnes, de partager, d'avoir des sourires, d'avoir des partages, d'échanger et de faire tomber les barrières qu'il peut y avoir entre les uns et les autres et donc de faire quelque chose d'éminemment positif. C'est en tout cas un des objectifs de tous les treks que l'on organise. Depuis une dizaine d'années maintenant.
Jean-Philippe Allaire, justement, il y a un public, j'imagine, qui est visé parce que c'est pas le grand public là. Vous vous adressez pas au grand public précisément.
Alors, on s'adresse à des gens qui pratiquent ce qu'on appelle l'ultra trail. Donc à l'origine, avant d'être un ultra trailer, on est en général un marathonien. Donc on fait des distances qui peuvent aller jusqu'à 42 km. On est plutôt sur la route, en milieu urbain. Et puis tous les coureurs qui veulent pratiquer des sports d'endurance dans des environnements outdoor, c'est-à-dire dans la nature, et qui veulent vraiment se fondre dans des paysages et dans la nature, eh bien, ils viennent à pratiquer ce sport d'endurance qu'on appelle l'ultra-trail, et qui peut se dérouler, comme je vous l'avais dit, soit dans des environnements montagne, soit dans des environnements désertiques, ou en tout cas dans des environnements beaucoup plus chauds. Et c'est un petit peu l'objet de ces courses. Donc, en Algérie, on a démarré par Selimoun, mais l'objectif c'est aussi de pouvoir aller dans des environnements type Janet ou d'aller dans la Sécrem du côté de Tamanrasset ou dans d'autres parties du pays qui sont tout aussi magnifiques parce que je crois que l'Algérie regorge de sites touristiques et de sites d'exception. Donc il y a un gros potentiel.
Exactement.
Pour faire venir des athlètes du monde entier parce que on pratique ce sport dans le monde entier. Hein, c'est pas aussi populaire que le football. Mais en tout cas, pratiqué dans le monde entier par énormément de gens.
Le prochain événement que vous comptez organiser, ça se passe quand, mon cher Jean-Philippe Allaire?
Alors, en Algérie, on a dans l'idée de renouveler l'opération en novembre 2023 à Timimoun. On a également dans l'idée, en février-mars 2024, d'aller faire à Janet une course de même nature. Et puis, de manière plus proche, on a une course qui va se dérouler à Cuba au mois d'avril 2023, donc l'année prochaine. À Cuba, on a également un projet au Cap-Vert. Donc, vous voyez, c'est plutôt des projets dans des pays avec de grandes richesses touristiques et des pays qui sont moins connus, ou en tout cas qui gagnent à être connus, voilà, par rapport à d'autres pays très, 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 très touristiques. que tout le monde connaît, mais en tout cas, nous, on est plutôt sur des pays...
Ça donne envie, hein, ça donne envie tout ça, ça donne envie d'y participer et de venir, justement. Vous avez quelque chose peut-être à livrer à nos auditeurs, à celles et ceux qui vous écoutent, justement, mon cher Jean-Philippe Allaire?
Alors, on a toutes les informations se trouvent sur notre site web www.letreg.com, donc www.letreg.com, le-treg.com. Donc, il y a toutes les informations sur les dates, sur les prochains événements. Et puis, on a sur les réseaux sociaux une page Facebook qui donne également toute l'actualité de nos futures épreuves.
Eh bien, voilà comment découvrir les, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le décor du Sahara, le décor de ce désert algérien. Merci de nous avoir fait profiter de cette balade en direct dans Les Informés, mon cher Jean-Philippe Allaire. À très bientôt, j'espère. Hein.
À bien. Merci, Xavier, et bonne fin de journée à tous les auditeurs.
Absolument, à très bientôt et bon vent évidemment à ce que vous entreprenez. Il est 18h10 précisément. Tiens, je vais ouvrir l'antenne 01 53 48 3000.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Les informés vous donnent la parole. Vous savez quoi? Tout de suite là, maintenant, je vous attends. J'ai envie de parler de football. J'ai envie de parler de masques. J'ai envie de parler, vous savez quoi? De coupures d'électricité. Est-ce que vous craignez évidemment des coupures d'électricité? Là, maintenant, le standard est ouvert. Il faut que vous soyez, il faut faire vraiment... Anthony n'a qu'une seule hâte, c'est de prendre le téléphone qui sent dans tous les sens. N'est-ce pas, Anthony?
Faire péter le standard, comme on dit.
J'osais pas le dire, mais tu l'as dit. Voilà, absolument. Et le Maroc qui joue en ce moment avec des prolongations. Nous sommes à la 102e minute. Et quelle ferveur le Doha, le Qatar est en train de vivre. Là, je vous attends 01 53 48 3000. Comment vous vivez ce match? L'Espagne face au Maroc. Le Maroc face à l'Espagne. J'avoue, je vous dois dire que l'angoisse est à son sommet. Venez nous venir. Là, je vous attends 01 53 43 01 53 01 53 48 3000.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Tu as bien raison, Anthony. Voilà. Comme ça, c'est dit. 01 53 48 3000. Je vous attends. Donc, pour parler de foot, là, en ce moment même, le Maroc, Espagne, à Doha. Aïe. Effectivement, là, je vois Anthony qui secoue dans tous les sens. Et Jean-Philippe Allaire qui nous a quitté. Mais Philippe Nadjibouyaki. Tiens, je vais ouvrir le micro. Ouais. Philippe Nadjibouyaki qui est un grand amateur de foot.
La légende le dit.
Ah, le mec, il s'en fout complètement.
Non, c'est pas que je m'en fous, c'est que j'y connais pas grand chose. Et je sais. Très
mais là, je vous ai vu, regardez.
Mais bien sûr, mon cœur là, bat pour le Maroc, bat pour la France, bat pour le Sénégal, bat pour la Tunisie. Malheureusement, qu'ils nous ont quitté, le Sénégal et la Tunisie. Évidemment. Mais c'est vrai que, c'est une autre info, moi, qui est en train de
Laquelle?
C'est celle de Francky Vincent décoré des arts.
Oui, les chevaliers désormais, c'est vrai, les chevaliers des arts et des lettres, ouais.
Et là, il y a sur un média, il y a marqué tu veux mon zizi au Panthéon de la culture, c'est juste extraordinaire. Tout est possible.
Mais non, c'est juste énorme.
Non, si vous croyez que vous allez sur BFM, vous écoutez la radio, et c'est ce qui a marqué, c'est juste extraordinaire. Moi, je suis fan de Francky.
Tiens, les auditeurs, tiens, je vais en prendre là tout de suite, là en direct. Là,
qu'est-ce que vous en pensez, tiens?
Non, mais c'est incroyable.
Vive le Maroc, et j'espère que le Maroc va gagner.
Et c'est un franco-algérien qui dit ça. Attention, les amis.
Attends, justement. Détrompez-vous. J'étais très en colère et je le dis ouvertement après la télévision algérienne qui la semaine dernière a diffusé les résultats et on voyait que trois équipes alors que le Maroc avait joué et s'était qualifié. Donc ça, ce n'est pas représentatif du peuple algérien. Les Algériens et les Algériennes aiment les Marocains et les Marocaines aiment le Maroc. Vous êtes nos frères, nous sommes frères. Que ça plaise ou non à celles et ceux qui sont pas contents, on n'a pas besoin d'eux et on va avancer sans eux. Moi, j'aime le Maroc. Je reviens là de trois jours du Maroc.
Vous avez passé un bon moment.
Ouais, c'est un pays extraordinaire. Les gens nous accueillent d'une gentillesse à la PAF. On me dit bienvenue chez vous, alors qu'il y a bien marqué je suis né en Algérie, etc. Donc on pourrait se dire que même là, il pourrait y avoir un sentiment d'un mauvais accueil. J'ai toujours été super accueilli. Je me suis senti chez moi et je compte bien retourner assez régulièrement au Maroc.
À la fraternité.
La fraternité, c'est ça.
Voilà, c'est le mot.
C'est le mot exact.
C'est le mot exact. La fraternité, c'est ça qu'on prône. On prône ça, nous, à BFN. La diversité, regardez. La radio de la diversité. C'est ça. Le Maroc. Aïe, 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 au summum, là, hein, comme vient de nous le dire Philippe Nadjib Boulaye. Je vous attends, 0153483000, comme dit Anthony. Faites péter le standard et venez commenter à la fois ce match qui est en direct en ce moment même à Doha, au Qatar. Mais également, on parle des, vous savez quoi, du masque. Retour du masque. Est-ce que vous êtes, vous, justement, hostile ou vous êtes favorable à ce qu'on mette le masque? Et puis, faut-il craindre les risques de coupure d'électricité? Je vous attends, 0153483000. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
Allez, 18h22, c'est l'espace des auditeurs, c'est parti.
01 53 48 3000, Les Informés vous donnent la parole.
Et je vous offre la liberté de choisir le sujet que vous souhaitez. Léa, vous nous appelez de Paris, bonsoir Léa.
Bonsoir.
Comment ça va ma chère Léa?
Eh ben ça va bien, bon. Ça fait plaisir de vous voir rigoler,
ben
ça
oui.
Vous va tellement bien.
Ben oui, ça fait du bien de pleurer, vous savez, ça fait du bien de rire quand même. Hein. Moi j'aime rire, vous savez, j'aime rire. Vraiment, quand je peux, je rigole, voilà. La vie, il faut... ça me va bien, mais franchement, ça fait plaisir, ma chère Léa. Je vais rire encore un peu plus avec, voilà.
Et ben, moi j'appelle pour le Covid.
Alors allons-y sur le Covid, on vous écoute, ma chère Léa.
Eh ben, je suis partante pour ne pas porter le masque.
Pourquoi? Vous savez qu'en face de moi, j'ai tout le monde qui met le masque. Hein. Moi je ne l'ai pas mis, mais Anthony le réalisateur, il met le masque. Philippe Ladiboyer, qui est le conseiller régional, il met le masque. J'attends Nicolas Vidal qui va arriver. Et vous, vous dites, vous ne mettez pas le masque.
Non, parce qu'il faut une immunité pour tout le monde. Et puis, il est moins conséquent que la première vague qu'on a eue tout au début, même la deuxième, même la troisième. Je veux dire, si on part du principe de porter toujours le masque, la moindre grippe, la moindre épidémie, on sera les premiers à être visés. Donc, autant ouais. Ne pas le porter pour que tout le monde ait une immunité et que on puisse s'en sortir une bonne fois pour toutes et ouais. Se débarrasser justement du masque et des personnes, à la rigueur, des personnes vraiment susceptibles qui ont des graves maladies, oui, mais je veux dire, les personnes normales qui vont bien, eh ben, non, pas de masque. Ça sert à rien. Ouais. Comme en Chine, vous le voyez bien, ils ont pas, le fait de porter le masque tout le temps, la moindre épidémie, on les enferme. On les emprisonne limite chez eux parce que justement ils n'ont pas cette immunité là qu'on a nous en France, une chance mais inouïe de l'avoir eu en fait.
Ouais. Ben écoutez, je vais laisser aussi le soin aux auditeurs s'ils sont d'accord avec vous ou pas. Léa, 0153483000. Est-ce que voilà, vous êtes pour l'obligation du port du masque? Parce qu'en ce moment-là, vous savez que attention, hein, Léa, le Covid, il est en train de monter en force là.
Je
suis pas là, moi. Vous savez, vous me connaissez, Léa, hein, dans le quotidien. Je veux dire, moi, je rentre pas dans la psychose. Mais quand on regarde les chiffres, quand même, ça secoue.
Oui, ça secoue. Ok, il y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que si on écoute vraiment les chercheurs. C'est pas un Covid qui est fort. Je veux dire, il a été tellement changé à plusieurs reprises, justement grâce à l'immunité de pratiquement de tous les Français. Il est moins conséquent que les vagues qu'on a eues précédemment. Donc, pour éviter justement de se confronter comme un pays comme la Chine, par exemple, oui, il ne faut pas porter le masque. Certes, il va y avoir des malades, mais je pense qu'il y aura moins de cas graves que ce qu'on a eu.
Bon, bah écoutez, j'espère ce que vous dites, parce que c'est vrai, effectivement, j'espère. 015348, merci Léa d'être intervenue.
Merci beaucoup, au revoir.
Et au plaisir, je garde le sourire, vous inquiétez pas, on le maintient. Vous voulez parler du Covid, vous êtes d'accord avec Léa ou pas, le port du masque, l'hostilité du masque, vous en venez ici même, ça se passe au 015348 3000. Vous voulez parler de ce match en ce moment même avec les prolongations Maroc avec face à l'Espagne, 113e minute, chers amis, venez en parler ici même au 015348 3000. Comment vous vivez ce match? Vous voulez parler de risque de coupure d'électricité? Est-ce que vous craignez le pire justement? Parce que ça aussi, il y a beaucoup de gens qui me disaient ce matin qu'ils avaient un peu peur, qu'ils craignaient que cette coupure d'électricité les mette un peu dans l'embarras. Bon, bref, j'ai tout entendu en réalité, hein, y compris chez les personnes âgées. Donc 015348 3000, je vous attends là maintenant au standard. 015348 3000. Vous disiez quoi, Philippe Nadjiboyaki, avant d'accueillir les auditeurs?
Non, je disais non.
Léa expliquait, vous, ouais, je vous ai vu.
Bonjour Léa, je sais qu'elle nous écoute et merci d'être une fidèle auditrice de Beurre FM. Vous avez bien raison d'ailleurs, car c'est là où tout se passe.
Exactement.
Non, on n'a pas atteint l'immunité collective en vérité. C'est pas aussi simple que ça, mais je rappellerai à Léa que en Chine, quand elle dit dès qu'il y a un cas, tout le monde est confiné, parce que la Chine veut zéro Covid parce que ça peut handicaper son économie. Et là, en vérité, on arrive dans une période très importante pour les Français et les Françaises.
Oui.
C'est les fêtes de fin d'année. Et je peux t'assurer que les Français, si tu leur flingues les fêtes de fin d'année, il peut y avoir.
Et vous flinguez.
Il peut y avoir une émeute, il peut y avoir une révolution juste parce qu'on leur supprime Noël. Donc, ne prenons pas ce risque-là. Et puis, pendant les fêtes de fin d'année, c'est là où on va voir nos parents, nos personnes âgées, etc. Et eux sont beaucoup plus vulnérables et plus sensibles. Et donc, par conséquent, c'est sûr que si t'es jeune, t'es en pleine forme et que t'as pas de soucis, tu vas pouvoir le passer plus ou moins bien. Mais si t'es une personne avec un petit peu de vulnérabilité, ça peut très mal se finir.
Eh ben tiens, on va poser la question à Nicolas Vidal. Nicolas Vidal, quel plaisir de vous retrouver sur le plateau. Oh là 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 là, ça fait tellement longtemps, je ne compte même plus les nombres de mois où vous n'êtes pas venu. Qu'est-ce que vous avez boudé ou quoi, Nicolas Vidal ?
Pas du tout, je suis retourné au bord de la mer Méditerranée.
Vous avez raison.
Tranquillement, sereinement, pour essayer de préparer, de travailler.
Dans un cadre de vie plus agréable que celui que parisien.
Le soleil, la douceur et la joie de vivre.
Nicolas Vidal, ça change tout.
Vous m'avez vu, je suis.
Non, c'est vrai, je vous ai vu. Non, mais je vous ai vu, vous avez bonne mine.
Exactement.
Bonne mine.
Mais parle du t-shirt de Nicolas, il est extraordinaire.
Ouais. Il est quoi, je vois pas avec le micro.
Liberté, égalité, Beyoncé.
Pourquoi ce t-shirt? Il a tout dit.
J'adore, vous savez, je suis un peu taquin comme garçon. Voilà.
Il est beau.
J'en ai d'autres, donc n'hésitez pas. Voilà.
Il est beau, Nicolas Vidal. Le patron de Putsch Media. Ouais. Comment se porte Putsch Media?
Eh ben, ça va bien, comme la presse indépendante, un peu sous la pression quand même de la censure, il faut quand même le dire. On est quand même un peu sous le feu des critiques, bien entendu. On essaie de faire notre boulot tranquillement, sereinement, recouper nos sources, être fiable au maximum et surtout, Adil comme vous, informer au mieux nos auditeurs.
J'ai regardé encore, je vous suis, attention.
Je sais bien, je vous remercie.
Les interviews, les vidéos, etc. Voilà. J'ai vu que les nombres d'abonnés, ça grimpe.
Ça grimpe, la chaîne YouTube est à 117 000 abonnés.
J'ai vu, j'étais resté à 70 et tout d'un coup, paf.
C'est le plus riche des voix. Tout le monde est le bienvenu sur Putsch de manière à faire parler toutes les voix malgré ce qu'on peut dire.
C'est quoi son slogan à Putsch Media?
C'est Putsch, c'est bousculer l'ordre culturel et politique établi. Voilà. On appelle ça le libre arbitre.
Il me donne envie d'y aller. Hein. Il me donne envie de boxer. J'ai vu deux, trois trucs.
Mais il est bon en plus.
On va pas aller à Putsch Media comme ça.
En plus, ces interviews, ils secouent. C'est pas l'interview classique.
Non, mais je suis en train d'effacer toutes les choses négatives que j'ai faites avant d'y aller parce qu'il est capable de déterrer des choses qu'il est.
Mais pas du tout. Je suis bienveillant.
0153483000, faites péter le standard. Je vous attends pour parler de foot. Le Maroc en ce moment même qui prolonge 116e minute face à l'Espagne à Doha en pleine Coupe du Monde. Quel match, quel. Bref, beaucoup me disent, là je reçois des messages, ils sont en train d'angoisser, ils sont pliés en mille, certains veulent casser leur télévision, d'autres attendre l'exaltation. Bref, venez vivre ici même, venez nous dire vous comment vous vivez tout cela, 0153483000. Et puis on parle aussi du masque, le retour du masque, doit-on le rendre obligatoire? Parce qu'on parle aussi des fêtes de fin d'année, et vous savez que les fêtes de fin d'année, c'est un peu compliqué. Et justement, certains voudraient les passer sereinement. Voilà, c'est ça. C'est vrai, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, il est là. C'est de passer les fêtes en famille avec tout le monde. 01 53 48 3000. En attendant vos appels, je vous attends. Anthony vous attend, surtout au standard 01 53 48 3000. Le face-à-face, c'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
Et le face-à-face, c'est avec Philippe Nadjiboyaki, le conseiller régional. Comment ça va, mon cher conseiller régional?
Super.
Tout va bien?
Ouais, super bien.
Le porte-parole
co-porte-parole national de l'écologie au centre. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est l'écologie au centre, c'est l'ancien mouvement Alliance écologiste indépendant. Et nous, on se situe sur la même position que les Verts allemands. C'est-à-dire capable de créer des coalitions avec des gens de droite, avec des gens de gauche, peu importe, du moment qu'ils sont intelligents et qui œuvrent pour l'intérêt général en respectant, bien sûr, la nature, la planète et ses habitants, tous ses habitants, y compris les animaux.
Que de mots, de mots, de mots.
C'est beau.
Je ne sais pas si c'est beau. Nicolas Vidal, donc Putsch Media, bienvenue aussi également. Messieurs,
merci.
Tout de suite. Vous savez quand on va parler justement des risques de coupure, les risques de coupure avec ce rétro. Tiens, Anthony, retrouve-nous s'il te plaît l'interview d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui réagit justement à cette coupure où il tape une crise. Il est chez les Balkans et il fait une déclaration qui est pour le moins surprenant parce que, alors moi je l'appellerais ça du rétropédalage, parce que c'est lui qui a demandé au gouvernement de justement de réfléchir à tous les scénarios de risque de coupure, de délestage. Nicolas Vidal, que se passe-t-il ?
Emmanuel Macron,
il fustige maintenant les scénarios de la peur.
Il est excédé, Emmanuel Macron. Enfin, lui qui nous fait quand même, qui nous critique le gouvernement de la peur. Je rappelle que ça fait 3 ans qu'Emmanuel Macron nous fait vivre dans la peur. Tout de même, faut quand même le dire. On est en guerre. Tout le monde l'a entendu. Donc maintenant, Emmanuel Macron, il en a marre. Il est très agacé. Voilà. C'est un petit, pour moi, un gamin effronté. Je pense que c'est
Il a droit à une clochette. Nicolas,
il commence avec une clochette. Non, mais maintenant, concrètement, aujourd'hui, on pourra en reparler plus dans le détail parce que ça s'explique. Aujourd'hui, il faut expliquer pourquoi. Aujourd'hui, ça paraît quand même un peu iconoclaste d'avoir cette réaction à l'étranger. Tout de même, parce qu'Emmanuel Macron, en termes de non-souveraineté énergétique, il est quand même le champion du monde. On rappelle que Fessenheim, on rappelle aussi le projet Astrid, on rappelle tout ça, on rappelle cette dépendance aussi au projet énergétique, on rappelle aussi, bon, je sais que ça va faire plaisir à Philippe, mais sur les projets des éoliennes. Aujourd'hui, on se rend compte que le problème, il est vaste, que ça va impacter des millions de gens. Et Emmanuel Macron, il a beau jeu aujourd'hui de venir être agacé, s'exasper. Bah
écoutez l'extrait. Allons-y. Anthony nous a retrouvé l'extrait justement d'une déclaration. Regardez, écoutez, vraiment.
Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc, le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver, malgré la guerre, et donc je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les centrales, le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification, le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les scénarios de la peur, pas pour moi. On reste tous unis et on avance.
Pas pour moi, il dit. Pas pour moi. Il s'adresse à qui ? Il recadre qui, là, au juste ? Il s'adresse à qui ? À Enedis ?
Rappelez-vous, rappelez-vous qu'il a recadré Jean-Bernard Lévy. Jean-Bernard Lévy, pour un moment donné, vous donner, c'était l'ancien patron d'EDF. Il était aux rencontres des entrepreneurs le 30 août dernier à l'hippodrome de Longchamp. Et Jean-Bernard Lévy a fait une déclaration fracassante parce qu'il a dit devant Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, qu'effectivement, l'État avait demandé le démantèlement des centrales au fur et à mesure du premier quinquennat d'Emmanuel Macron et du second. Et Jean-Bernard Lévy, je vous invite à aller voir cette déclaration en public devant les grands patrons. Il a mis en cause immédiatement l'État en disant que c'était l'État qui avait démonté le démantèlement. Il ne fallait plus embaucher de gens pour la maintenance, donc les risques de corrosion, mais surtout pour commencer à embaucher des gens pour fermer petit à petit les centrales. Donc vous imaginez bien que quand vous avez un président qui a demandé à EDF de fermer les centrales pour passer sur un autre mode énergétique, et maintenant il vient nous dire que la culture de la peur c'est pas pour lui et qu'il demande à EDF de faire son boulot. Concrètement, j'ai pas l'impression en écoutant Jean-Bernard Lévy qui depuis a été est parti que ça a été bien le cas. Et d'ailleurs Emmanuel Macron, Fessenheim, je le rappelle, et Astrid a été des décisions lourdes de conséquences. Et je finis par là. Maintenant, qui va payer les pots cassés ? Ce sont les Français qui bossent, ce sont les Français qui risquent les coupures d'électricité. Et ce qui s'ensuit aussi, ce sont des pénuries et tout ça. Mais on va en parler, j'en suis convaincu.
On en parle justement, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après, y compris vous au 0153 48 3000. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les 18h42, merci d'être avec nous. On vous fait commenter exceptionnellement, vous savez quoi ? 1-0 pour le moment. Là, on est au tir au but. Attention. Il l'a raté, Nicolas Vidal. Est-ce qu'on peut dire en commenter ? Alors attendez, on va laisser Nicolas Vidal parce que c'est le spécialiste quand même foot. Qu'est-ce qui se passe ? Commentez-nous en ce moment, s'il vous plaît.
On a Sarabia, le joueur parisien effectivement qui vient de frapper la base du poteau sur ce deuxième pénalty pour l'Espagne. Donc l'Espagne est derrière avec un but à zéro, notamment pour le Maroc. Ça va être le deuxième tireur du Maroc qui va se présenter pour essayer bien sûr de continuer à creuser l'écart. Mais Pablo Sarabia, effectivement, il est un peu tendu, Pablo Sarabia.
Donc avantage Maroc.
Maroc, un tir au but à zéro.
Alors voilà. C'est Ziyech là justement qui va tirer le but. Nicolas Vidal.
Là, on va voir. Ziyech, très très bon joueur d'ailleurs. Maroc a une très
excellent
très bonne
joueur, tournée, absolument. Et c'est Nicolas Vidal.
Du fil à retordre. Beaucoup de pression.
Exceptionnellement,
on
vous fait commenter donc parce que là il se passe un moment exceptionnel. Que... Les tirs au but, attention
voilà.
Ziyech.
Et voilà. Mi-hauteur, forcément c'est un choix, c'est un vrai défi, hein, parce que si le gardien bouge pas c'est arrêté, par contre si le gardien plonge bien entendu ça rentre, et pourtant le pénalty est pas super bien tiré, il est simplement à mi-hauteur, plat du pied, simple, voilà, et ça rentre.
Effectivement. Alors maintenant, on est toujours au tir au but et on a les Espagnols qui s'emparent de ce deuxième pénalty. Attention Nicolas Vidal, que se passe-t-il?
Bah là, ça commence à devenir très très chaud pour les Espagnols.
0153483000 si vous voulez nous appeler. Venez.
La pression va être de plus en plus forte pour les Espagnols. Alors voilà, le joueur s'avance et il choisit.
Aïe, 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 que se passe-t-il, Nicolas Vidal? Qu'est-ce qui se passe, Nicolas Vidal?
C'est typiquement
le but, le goal marocain a arrêté le pénalty. Ouais.
Non mais c'est le
que se passe-t-il?
C'est le pénalty le plus mal tiré de la Coupe du Monde. Je peux vous le permettre. Il est nulle part ce pénalty. Même le gardien qui fait des sauts de cabri le prend sans aucun problème. Il est très très mal tiré. Il est pas fort. Il est pas placé. Et bien entendu, le gardien se détend et l'arrête.
On en est à combien au tir au but pour le moment, mon cher Nicolas Vidal?
2 pour le Maroc et 0 pour l'Espagne.
Exceptionnellement,
je crois qu'il manque un but pour que le Maroc se qualifie.
Exactement. Les informés, on vous fait vivre ce moment exceptionnel pour la qualification des quarts de finale, au quart de finale, pardon, de ce championnat du monde au Qatar, à Doha, avec Nicolas Vidal et Philippe Nadji Bouriaki. Nicolas Vidal, je vous laisse commenter ce troisième but des Marocains. Que se passe-t-il en ce moment même?
Troisième tir. Alors. Il s'élance et là. Ah, mais là, c'est un arrêt très très mal tiré aussi. Ben, c'est un arrêt du gars. C'est l'arrêt du gardien espagnol qui est sauve sur le fil pour l'instant, je dis bien pour l'instant, l'équipe d'Espagne qui a un espoir encore de pouvoir essayer de revenir au score. Mais bon, là aussi, c'est un pénalty qui est bon. Le gardien plonge bien, il est moins mal tiré que l'autre. Mais très sincèrement, bon, là on est à 2-0.
Quelle ambiance. J'imagine que chez vous, cette ferveur que vous êtes en train de vivre, voilà, effectivement.
C'est Sergio Busquets, l'expérimenté milieu de terrain du FC Barcelone. On va voir si l'expérience va parler.
Alors, l'expérience va-t-elle parler?
Je déteste d'ailleurs l'expérience.
L'entraîneur, il est complètement dépité, Nicolas Vidal, l'entraîneur et le coach espagnol.
Il est enfoncé sur sa chaise. On peut pas dire que là, il va toucher le sol à force. Le sélectionneur espagnol. Sergio Busquets.
Qui s'apprête à tirer. Attention.
Petit pas. Et
c'est arrêté! Que se passe-t-il, cette Coupe du Monde? Mais que se passe-t-il? Le goal exceptionnel.
Il en fire.
Arrêté. Voilà. Il l'a arrêté.
Vous voyez, quand les commentateurs sportifs parlent d'expérience, vous avez un Sergio Busquets quand même qui a fait je ne sais combien de guilles champions et il n'y en a aucun là. Si le Maroc marque celui-ci, le Maroc est qualifié pour les quarts de finale. Voilà.
Quel arrêt du gardien, par contre, il faut souligner ça parce qu'il est on fire,
Non, il y a un très bel arrêt.
Allez. Nicolas Vidal, que se passe-t-il? Dites-nous, commentez un peu.
Là, c'est le penalty du Maroc. Si le Maroc enferme ce but,
on est à combien?
Le Maroc serait 2-0. Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Voilà. Et donc, c'est Hakimi qui se présente devant
Hakimi,
le gardien,
le joueur du PSG,
le défenseur parisien. Ah là, Hakimi, qu'est-ce qu'il va nous faire, Hakimi?
Attention, chers amis, dans ce studio chez Beurre FM.
Exceptionnellement, c'était pas prévu.
Non, c'était pas prévu. J'avais des sujets très compliqués que j'avais bossé tout l'après-midi, mais je me retrouve à commenter un 8e.
Priorité au direct.
Priorité au direct. Mais là, parce qu'effectivement, on est autour du but, attention.
Hakimi se présente et.
Nicolas Vidal! Quel but! Ils sont qualifiés pour les quarts de finale.
Alors les auditeurs diront, mais j'ai l'impression que Hakimi a tenté quelque chose, il a tenté une petite panenka, un ballon fouetté juste plein axe du gardien.
C'est ce qu'on appelle un ballon fouetté, c'est ça, une panenka.
Une panenka, la panenka va beaucoup plus haut, mais là on a l'impression qu'il a fouetté son ballon et le ballon est tombé mollement.
Excellent défenseur parisien, au PSG. Excellent défenseur.
Le Maroc est qualifié et bien sûr Luis Enrique, il a la tête.
Et ça commente beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est bien, bravo.
Comme quoi, vous voyez, le football, c'est ça aussi qui est beau.
Remettez-nous le direct, s'il vous plaît.
Des équipes qui déjouent les pronostics et le Maroc est donc en quart de finale de la Coupe du Monde.
Ça y est, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour le Maroc? Parce que le Maroc, c'est le premier pays africain à se retrouver au quart, il me semble, de mémoire.
Il me semble.
En tout cas, pour le Maroc, c'est la première qualification au quart de finale.
C'est beau ça, parce que finalement, on attend souvent les grandes équipes et c'est bien aussi qu'il y ait des équipes, à un moment donné, qui sont plutôt outsiders, qui se hisse au quart de finale, parce que là on commence à arriver quand même au niveau un peu énervé là,
le Maroc c'est exceptionnel. Peu premier pays me semble-t-il à être qualifié au quart de finale. Tiens, on va accueillir Rafik. Bonsoir mon cher Rafik.
Vous invitez, c'est un très très bon moment que je viens de partager et que je voulais vraiment partager avec Adil, avec FM.
Oui.
Et c'est vraiment de la joie, c'est vraiment un moment magnifique.
Vous êtes d'origine marocaine, Rafik?
Bah, je dirais que
J'imagine que vous êtes au sommet là. C'est une première pour le Maroc, j'imagine, magnifique, au quart de finale.
Magnifique. Je pense que c'est dommage, on n'a pas pu voir ça en clair sur les chaînes françaises, mais quand même, on a trouvé le moyen de regarder ce match-là, et c'est juste extraordinaire. Donc franchement, bravo à l'équipe du Maroc. On est tous marocains ce soir. Je pense que l'ensemble des Français sont marocains ce soir, et qu'on fera en sorte de supporter encore le Maroc pour aller très très loin. Donc bravo.
Eh ben merci Rafik de nous avoir fait partager ça en direct, ici même, commenté par l'excellent commentateur Nicolas Vidal. Vous imaginez la chance qu'on a eue. La chance qu'on a eue. Merci à Nicolas Vidal d'avoir commenté.
Avec grand plaisir.
Avec précision et même d'ailleurs avec des mots techniques. Hein. Vous avez vu Nicolas Vidal,
vous m'avez
impressionné Nicolas Vidal.
C'est un truc que je ne savais pas.
Non mais attendez, il nous a sorti une table technique et tout. Hein. C'est incroyable.
Je suis un agent de la CIA et du Mossad et donc je n'avais pas ça sur mes fiches.
Ah ben, vous pouvez l'avoir.
Et j'ai au copain.
J'aime le football, effectivement. J'aime le beau football. Et j'aime surtout que les petites équipes, à un moment donné, déjouent les pronostics. Voilà, ça, c'est ma passion.
Mais il n'y a pas de petites équipes.
On prend 0153483000, vous nous appelez. Équipe,
mais sur l'échelle des valeurs au niveau du monde.
Tu vois, je sais pas si je le disais en off ou pas. Ce que je trouvais anormal, c'est que l'Afrique, 57 pays, n'avait le droit qu'à 5 pays qualifiés, alors que l'Europe en avait 12. Et donc, vraiment cette injustice sur ces. En plus.
Je vous le dis, les auditeurs, il est en train de parler dans le micro, il est avec ses deux portables, il est en direct sur les réseaux sociaux.
Ouais, parce que je fais un live sur Facebook et un live sur Instagram en même temps.
Et ça commente.
Il y en a beaucoup qui sont très contents.
Faut nous dire qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'ils racontent.
Bravo, félicitations Maroc, top. Rafik justement, le Maroc a gagné, top. Isabelle qui nous envoie des cœurs. Vraiment, il y a des cœurs de partout.
En tout cas, une qualification quart de finale, c'est pas une qualification du hasard. Effectivement, le Maroc s'est quand même extrêmement bien débrouillé. Il faut savoir qu'ils avaient le Belgique aussi face à eux. La Belgique a été sortie. Donc, on n'arrive pas.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'entraîneur, le coach marocain on parle beaucoup de lui. Il est exceptionnel. Il a une dextérité.
Adil, il a quand même une équipe à sa disposition de très, très bons joueurs autour. Il a Ziyech, il a Hakimi. Et les supporters marocains les connaissent très bien, bien mieux que moi. Donc, effectivement, ça permet aussi d'avoir une équipe, on va dire, solide, cohérente, comme aime dire le commentateur sportif. Moi, je préfère dire qu'il joue au ballon, qu'il sait jouer au ballon. Et effectivement, ça donne ça. Et les grandes stars, des très très grandes stars des autres pays, notamment européens, sont tombées les unes après les autres. Et après le Maroc, on verra bien les quarts de finale. Ça va être extrêmement intéressant de voir ce Maroc qui va affronter le Maroc en quart de finale. Je pense qu'il y aura une belle empoignade. Voilà.
Mais je vous vois bien, moi, commentateur sur une grande chaîne de télévision, vous. Hein.
Oui. Je suis pas très politiquement correct.
Je vois. Qualification désormais donc exceptionnelle des Lions de l'Atlas. Au tir au but, 3 tirs au but donc face à l'Espagne et c'est parti.
Le Portugal ou la Suisse.
Ou face à Ronaldo. Ouais.
Aïe.
Mais si on marque une courte pause et on se retrouve avec nos sujets d'actualité, on vient de vous faire vivre ce moment exceptionnel, inédit, où le Maroc, ça y est, se retrouve pour la première fois dans les quarts de finale, donc dans cette Coupe du Monde à Doha, au Qatar. Vous pouvez nous appeler et venir livrer vos émotions au 01 à Doha, oui. Oui, bah oui, ça doit. 0153483000, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après avec nos sujets d'actualité.
Informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
18h55, figurez-vous qu'on reçoit des appels du Maroc. C'est un truc de fou ce qui se passe là. Vous aussi, Nicolas Vidal, on dit que vous devriez être commentateur.
Ben, on m'envoie des messages, effectivement, après ma prestation il y a quelques minutes là-dessus. C'est assez formidable. Hein.
C'est excellent ce qui est en train de se passer dans les studios de Beurre FM, dans les informés. Et bien justement, nous allons aller direction le Maroc. Vous savez quoi? Parce qu'on vient de nous appeler au standard. J'y peux rien, on nous appelle depuis le Maroc. Vous vous rendez compte? Les auditeurs marocains! Marocain nous appelle ici même dans les informés sur Beurre FM pour nous dire qu'effectivement cette réussite c'est aussi la réussite, je viens de l'avoir et de les avoir au téléphone, c'est une réussite aussi maghrébine, africaine, disait un instant donc un auditeur du Maroc, donc on va essayer de le joindre, on avait un problème, le voici, le voilà, vous êtes avec nous en direct donc en direct de cette sensation exceptionnelle, le Maroc crée la surprise mon cher Brahim,
ouais,
justement
le Maroc c'est le premier pays arabe et islamique qui est dans le quart de finale.
C'est ça, voilà, c'est ce qu'on se posait comme question.
Oui.
Et là, c'est là. Pour le Maroc, là, qu'est-ce qui est en train de se passer au Maroc là? J'imagine qu'ils vont faire la fête toute la soirée ce soir.
Ouais, c'est la fête. Ouais, c'est la fête ici au Maroc. Nous sommes à Marrakech, on a déjà fait la fête, ça on va commencer.
Excellent, ben écoutez.
Jusqu'à le matin.
Eh ben bravo à vous, bravo au Maroc, bravo à vous
merci,
tous. Bravo, félicitations.
Merci beaucoup.
On vous le disait, vous êtes en direct merci. Donc sur Beurre FM, en direct des informés. Bravo à vous, vous méritez cette victoire parce que vous avez fait, vous avez
beaucoup,
fait une belle
merci
coupe,
merci
franchement.
Merci beaucoup pour votre chaîne, merci pour la France, merci pour les Arabes, merci pour les musulmans, merci pour le tout.
Eh ben, on a bien compris, effectivement, vous l'aurez entendu. Merci à vous et vivez votre fête. Faites la fête. Vous le méritez. J'entends les klaxons derrière. Oui, j'entends les klaxons. J'entends les klaxons. J'entends, effectivement. Eh bien, à très bientôt. Merci d'être intervenu en direct. Merci à vous et au plaisir. À très bientôt.
Merci.
À bientôt. Et c'est incroyable ce qui se passe au Maroc.
Je vous confirme, c'est bien une panenka, hein, de notre ami Achraf Hakimi. C'est bien une panenka. Je l'avais bien vu. Voilà.
Absolument. Vous l'avez bien vu. Effectivement, vous l'avez très, très bien vu. Et je dois dire que.
C'est quand même courageux bravo. De faire une panenka sur un dernier tir au but.
Hein. Ah, non, absolument, c'est courageux. Voilà. Donc, il vient de nous dire que c'est la victoire, il disait, hein, c'est la victoire de tous les pays arabes, il disait, et c'est la victoire aussi des Africains, c'est ce qu'il vient de dire. Mmh. C'est ça, au juste ?
Ben oui, effectivement, ça permet d'avoir.
C'est ce que vient de dire le Marocain là, depuis Marrakech.
Le continent africain sur une Coupe du Monde, il se hisse en quart de finale, c'est extrêmement important. Et puis ça montre aussi qu'effectivement aussi ces joueurs-là peuvent jouer. Moi, je suivais un peu l'équipe d'Algérie. Je trouve que c'est une très très bonne
excellente équipe
très,
aussi.
Très technique, très technique. Absolument. Mais on se rend compte que le Maroc aujourd'hui a trouvé effectivement un plan de jeu et surtout joue bien ensemble. Et on peut faire ce qu'on veut, on peut faire tous les pronostics qu'on veut, on peut faire toutes les tactiques qu'on veut. La réalité, c'est que les joueurs sur le terrain, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent et que manifestement, au Maroc, ça tourne plutôt pas mal parce que je rappelle qu'ils sont sortis, ils ont sorti quand même la Belgique et il y a eu la Croatie aussi dans le même groupe. Hein. Rappelez-vous.
Des grandes nations.
Un groupe
footballistique.
Un groupe beaucoup plus important. Beaucoup
des grandes
plus
nations
fort, beaucoup
footballistiques.
Plus difficile que celui de la France, quand même.
Absolument. Voilà. Messieurs, tout de suite, nous allons parler. Je vais donner le micro à Philippe Nadjiboyaki concernant les risques de coupure, justement, quand on parle de, on parle d'énergie, on parle de sobriété. Et puis, cette déclaration inattendue, d'ailleurs, ce paradoxe, je souffle chaud et le froid. Philippe Nadjiboyaki, qu'est-ce qu'il a voulu nous faire dire? Parce que c'est quand même lui qui a initié ces scénarios et en même temps, il rebrouche chemin et en même temps, il dit, bon, il tape un coup de colère, là, hein.
Ah oui, mais ça a été clair, mais je pense qu'il a... honnêtement, moi, ça m'a donné l'impression qu'il tapait un coup de colère, surtout sur ses ministres, qui partaient un petit peu dans tous les sens, et pour dire en gros, vous avez calmé tout de suite le jeu, pas d'affolement, et à moins que ça soit, mais là vraiment, je suis dans la paranoïa la plus totale, un coup de com' énorme sur quelque chose qu'ils anticipent, sachant qu'il n'y aura sûrement pas de coupure d'électricité, ou vraiment très peu, et à la sortie de ça, dire, vous voyez comment j'ai géré l'histoire ? Et donc, j'ai géré cette histoire, j'ai géré le chèque énergie, j'arrive à sauver les bouchers, les boulangers, parce que vous avez vu, ils ont fait un mouvement de protestation, ça s'est arrêté immédiatement. Je vais sauver quelques entreprises pour éviter des licenciements. Et donc, maintenant, pour pouvoir appliquer mon programme, je dissous l'Assemblée nationale et faites-moi confiance, soit vous me donnez une majorité à moi, soit vous leur donnez...
Oh, mais cette sortie, elle est quand même, franchement, je dois le dire, elle est quand même...
C'est la première fois.
C'est pas la première fois,
Non, c'est la première fois que Emmanuel Macron commente un fait d'intérieur alors qu'il est à l'étranger.
Il l'avait fait déjà. Rappelle-toi, les Gaulois réfractaires.
Il avait traité les Français
de Gaulois réfractaires. Donc déjà, Emmanuel Macron, il est quand même assez coutumier du fait là-dessus, hein, sur des sujets. Mais moi, je pense, Philippe, je suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense très sincèrement, je l'ai déjà dit, et j'écoute pas mal d'économistes, d'ailleurs Nicolas Meillant et d'autres. Je pense très sincèrement que ce gouvernement est en pleine panique. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir l'interview de Loïc Fauque-Prigent, qui est l'ancien patron d'EDF sur nos confrères d'Atlantico, où lui dit qu'aujourd'hui, ce n'est que de la communication et que manifestement, ce gouvernement-là n'a absolument plus les manettes de ce qui va se passer.
Il 20 réacteurs à la sur 56.
Ça évoque la trahison de nos élites, ça évoque à un moment donné la fermeture de Fessenheim. Je rappelle qu'Elisabeth Borne, en 2019, considérait la fermeture de Fessenheim comme un succès écologique. Voyez où ça nous mène, la fermeture de Fessenheim. Voilà où ça nous mène. Il y a eu le projet d'Astrid.
Il n'est pas d'accord, Philippe.
Il peut le dire.
Bien sûr, je finis là-dessus.
Il y a une volonté du gouvernement, mais à un moment donné, moi, ce que je veux dire par là, Philippe, c'est qu'il faut assumer.
Qu'on dit,
OK, on arrête l'énergie fossile nucléaire, on se met à l'éolien et à autre chose, mais par contre, il faut pas venir nous dire aussi que il faut faire baisser de 10% la consommation des Français sur le mois de décembre. Je rappelle aussi que pendant le confinement, premier confinement, rappelez-vous, on a tous vécu, hein, ça nous a tous traumatisés, on a baissé la consommation d'énergie de 6%. ça voudrait dire qu'il faut faire un confinement encore plus hard, je veux dire, en termes d'arrêt d'industrie, arrêt de l'énergie ou consommation d'énergie. Ça veut dire qu'il faut aller plus loin que ça. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné aussi, on ne peut pas dire aux Français, si vous mettez à 19, si vous mettez pas à 19 degrés, que votre douche va prendre 2 minutes et que vous allumez pas les plaques chauffantes à 19 heures, allez à dire ça à vos auditeurs et auditrices qui ont 4 enfants à la maison.
Pourquoi vous êtes pas d'accord?
Je pense que ça va être, il faut pas.
Ça tient,
sur Fessenheim, je suis pas d'accord. Ouais. Parce qu'il fallait vraiment la fermer. Mmh. Elle est sur une faille sismique. Il commençait à avoir des problèmes de corrosion vraiment importants, blague à part. Je peux pas donner mes sources et mes informations parce que c'est un petit peu compliqué. Mais Fessenheim représentait un réel danger. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que lorsque tu veux mener cette transition écologique et énergétique, tu dois l'anticiper en amont. Et c'est vrai que pendant 6 ans, Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont absolument pas pris la mesure et le là de la gravité dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Parce que, la guerre en Ukraine, mais ça ne fait pas tout.
Non,
on a la moitié des centrales qui sont à l'arrêt. Et ce qui est le plus fou, ce qui est le plus dingue, alors là, c'est pas que Macron, c'est même ses prédécesseurs. Aujourd'hui, il faut savoir que dans nos centrales nucléaires, les maintenances sont faites par des Nord-Américains.
Oui.
Parce que nous n'avons plus le savoir-faire, nous avons perdu la matière grise et nous l'avons pas anticipé.
Bah là, je suis d'accord avec toi.
Et en plus, ça nous coûte une tonne parce que quand les mecs, ils savent que t'es prêt à la gorge, ils sont sans pitié contre toi. Et certains iront même jusqu'à dire, je mets bien en conditionnel.
Ouais.
Que c'était une façon forcée de nous vendre du gaz de schiste américain du fait de notre dépendance au gaz russe, etc. Donc quand tu mets tout ça en combinaison, c'est vrai que l'anticipation n'existait pas. Passer à l'éolien, passer à l'hydrolien, passer l'hydrolien sous-marin, par exemple, passer au photovoltaïque, au panneau solaire, parce que certains font la confusion entre le photovoltaïque pour produire de l'eau chaude et le panneau solaire pour produire de l'électricité. À partir dans les énergies de géothermie, tu vois, c'est un mix énergétique. Il n'y a pas une solution, il y a plusieurs.
Quand je vous écoute parler, il y a de quoi de s'inquiéter, alors, finalement, non?
Oui, il y a
un peu.
Quoi
s'inquiéter, non?
Un peu, mais on voit qu'il y a une centrale qui vient d'être redémarrée, donc le temps qu'elle reproduise, ça reste une dizaine de jours, mais je pense que ça va s'accélérer. Et en vérité, on va être complètement
mais
très
là,
dépendant.
Pour le coup, Philippe, je suis d'accord avec toi là-dessus. Fessenheim, je suis moins d'accord. Mais sur les centrales aujourd'hui, à partir du moment où je l'ai dit tout à l'heure, quand Jean-Bernard Lévy balance à Agnès Pannier-Runacher, qui l'a mis, je le rappelle, de la transition écologique, en lui disant que le gouvernement a demandé la fermeture des centrales petit à petit et d'embaucher des gens qui sont en capacité, des techniciens de haut niveau pour les fermer, non pas pour, à un moment donné, les faire marcher mieux, prévenir les corrosions, comme tu as dit. Aujourd'hui, on se rend compte. Un exemple très simple. Regardez la centrale à charbon de Saint-Avold.
Oui, c'est vrai.
Saint-Avold. Qu'est-ce qu'on nous a pas dit sur Saint-Avold? Et ça pollue, et c'est du charbon, et tatati, et tatata, on va faire comme l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on a fait? On a viré, je sais pas combien d'employés début de l'année 2022. On les a rappelés, fin août, on les a rappelés pour leur filer 5000 balles pour qu'ils reviennent pour remettre en route le bordel. Le gaz de, je suis désolé pour la trivialité, mais le gaz de schiste, tu as raison aussi. Qu'est-ce que nous en pensons sur le gaz de schiste? Et maintenant, on le fait revenir des États-Unis, GNL et consorts. Enfin, ces gens-là, moi, je pense que c'est pas un problème d'anticipation. C'est un problème de volonté d'une, on appelle la transition écologique, et tu connais mieux ces sujets que moi. Mais la réalité, je finis par là aussi. Moi, je veux qu'on soit cohérent sur ces sujets. C'est-à-dire qu'on vous parle de transition écologique, ok, d'accord. Par contre, il faut pas aller signer traité de libre-échange la moitié de la planète.
C'est sûr.
D'accord? Parce que Emmanuel Macron, il fait bien rigoler, Oui, là, il faut la sobriété énergétique et tout. Par contre, quand tu vas signer avec la Nouvelle-Zélande, quand tu vas signer avec le CETA, quand tu vas signer avec machin, les super tankers qui tournent 24/24, si c'est pas polluant, et pour le droit des animaux, je te rappelle qu'on va au Canada récupérer des bœufs, c'est-à-dire que les trucs, ils rentrent dans le tank super tanker, ils rentrent vivants quand ils arrivent. Ils arrivent en Europe, ils sont emballés sous vide dans des plastiques. Est-ce qu'on se rend compte que ces gens, à un moment donné, sont même pas l'anticipation, ils sont dans une volonté, à un moment donné, de sobriété énergétique imposée par Bruxelles, hein. Là aussi, il faut être très clair là-dessus. Il y a une imposition de la manne bruxelloise là-dessus. Et je pense qu'Emmanuel Macron, maintenant, venir dire aux Français que c'est leur responsabilité, qu'il faut absolument qu'on baisse tous, qu'on fasse des économies d'énergie. Mais ça suffit, Manu, ça suffit. Ça suffit.
Non, mais en plus, pour aller dans ton sens, au risque de décevoir les auditeurs qui s'attendaient vraiment à un grand clash entre Nicolas et moi, c'est que la sobriété énergétique commence d'abord par l'isolation. Parce qu'en fait, si tout le logement, les passoires thermiques étaient bien isolés, c'est-à-dire inciter, aider, accompagner, en plus, c'est des emplois locaux, c'est des produits qu'on peut faire ici, soit par la paille, soit par du chanvre, soit par du polystyrène en extérieur, comme en intérieur, ça dépend selon la disposition et aussi selon les bâtiments de France sur certains domaines, etc., parce que tu ne peux pas isoler l'extérieur parce qu'il y a une dénaturation de l'architecture et il faudrait vraiment à un moment donné parce que les bâtiments de France, c'est l'état dans l'état, hein. Ils te disent niette, t'es mort, monte en l'air, redescend, tu ne peux rien faire. Et donc il faudrait déjà commencer par ça, et une fois qu'on a commencé par ça, passer aux autres modes alternatifs, mais c'est une volonté politique.
On va passer aussi à ce second sujet, parce que j'y tiens absolument. Vraiment, c'est très important. Alors que je reçois beaucoup de messages.
J'aurais voulu clasher.
Il y a un message d'une auditrice, justement, qui me dit absolument, qui est d'origine tunisienne et qui me dit l'Afrique et le peuple araban rêvé, le Maroc l'a fait. Les Lions de l'Atlas n'ont pas trahi leur surnom. Un match avec les tripes, le cœur et un peuple tout entier debout comme un seul homme. Voilà.
Et des gros coups de griffe aussi.
Et absolument. Allez, tout de suite, nous continuons. D'ailleurs, vous pouvez nous appeler au 0153 48 3000, parce qu'ils me les envoient directement via les réseaux sociaux. On veut ceux qui bossent, pas ceux qui rapinent. C'est qui ?
Gérald Darmanin. Ouais, formidable.
Il défend le projet de loi sur concernant l'immigration.
Exactement.
C'est ce qu'on doit comprendre dans cette déclaration.
C'est un sujet compliqué. Pour reprendre la phrase, il faudrait d'abord que ceux qui rapinent, il faudrait que McKinsey, déjà, il s'occupe de McKinsey. Ça serait bien. Parce que là, pour le coup.
Oh, clochette! Rapiner,
on aurait commencé par les
cabinets de conseil. Punchline, c'est punchline. La punchline, mon gars. Pas Nicolas Vidal,
En plus, je pense vraiment pour le coup. Vous savez que je dis ce que je pense. C'est un vrai problème. Il y a le problème de l'immigration, bien entendu. Mais il y a aussi un problème. Moi, ce que je n'arrive pas à m'empêcher de penser que, cette histoire de flexibilité de titre de séjour pour les métiers en tension, parce que c'est ça dont il est question. Moi, ça me fait peur, parce que j'ai ce regard, on va dire, social. J'ai vraiment peur, une nouvelle fois, au-delà, que ça soit une nouvelle fois une marche en avant, un pas de plus vers l'ubérisation, vers finalement faire grossir les rangs de l'armée du capital. C'est-à-dire prendre des gens en situation de grande précarité qui viennent bosser pour rien du tout. On parlera aussi que le droit du travail a été cassé, fait toute une série de choses, et qu'on va faire entrer des gens aussi pour aller mettre sous tension des métiers qui sont déjà sous tension, mais surtout pour ubériser un maximum, parce que ça, c'est à la carte. Et puis, j'ai envie de vous dire que quand j'ai lu les déclarations de Gérald Darmanin, il fait beaucoup de tweets, Gérald Darmanin. C'est un bon tweetos.
Mais il communique.
Ouais, il communique, mais il ne fait que ça.
Oui, il communique.
Mais moi, je suis très, très, très inquiet par rapport à ça, parce que Emmanuel Macron, c'est quand même l'ubérisation. On ne parlera pas ici sur l'Ubergate, mais peu importe. Il y a aussi cette volonté, à un moment donné, d'ubériser les emplois, c'est-à-dire faire entrer les gens en tout en sachant qu'ils seront pas, ils demanderont pas grand-chose.
Alors, il vise quoi ce texte ? Il vise à mieux intégrer et en même temps à mieux expulser.
Ça, c'est le même temps d'Emmanuel Macron. Concrètement, il y a un moment donné, il y a des sujets à prendre à bras le corps sur ces sujets-là qui sont très graves et qui préoccupent beaucoup les Français, Adil, hein, il faut quand même le savoir. Et là-dessus, les déclarations, c'est très bien, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, on sait ce que ça donne. Et quand notre ami Gérald Darmanin dit mieux intégrer, mieux expulser, machin, la réalité, c'est que ces gens, je pense que c'est un véritable angle mort de la politique d'Emmanuel Macron, qui lui, son seul objectif, c'est de flexibiliser le marché du travail. Et comme tout bon néolibéraux.
Mais il l'a dit Emmanuel Macron, il a dit c'est la restauration, c'est qui ?
C'est les
travailleurs immigrés.
Bien entendu.
Et il l'a dit, ce n'est pas caché.
Dans les grandes métropoles. Absolument. Donc, vous aurez finalement, je pense, une précarisation grandissante de gens qui vont venir. Et aussi, il faudra penser aux Français, les 7 millions de Français qui sont au chômage. Il faudra quand même penser à ça, parce que c'est quand même des données importantes à avoir en tête aussi.
Il dit des choses quand même. Il sort des choses, Philippe Léziboyer, qui est le conseiller régional. Qu'est-ce que vous en pensez ? Gérald Darmanin.
Autant je peux être d'accord avec Gérald Darmanin lorsque il parle, et je l'avais dit.
Vous l'avez dit ici antenne, même dans ce micro, sur notre antenne.
Lorsqu'on parlait de reconduire la frontière, celles et ceux qui nous posaient des problèmes dans notre société, je parle des multirécidivistes, les délinquants, ceux qui ne respectent pas les lois de la République, lorsqu'ils sont invités. Autant, effectivement, là, sur ce coup-là, je pense qu'il essaie de doubler Jordan Bardella et Marine Le Pen sur leur extrême droite, mais il risque de se retrouver dans les cordes. C'est un terrain auquel je ne lui conseille pas d'y aller, à Gérald Darmanin, parce qu'il va perdre, en tout cas, le centre-gauche et le centre-droit qui ne sont pas sur cette position. On parle d'humains, on parle là de Jean Kleenex. À loisir.
Bien sûr.
Mais le problème, c'est que le jour où tu feras un appel à nouveau pour venir sur les métiers sous tension, les gens ne viendront pas en CDD. Alors, il y a une vraie question qui se pose. Quelqu'un qui n'a plus un emploi, il a cotisé, il a droit à des chômages.
Il y a 30% de baisse maintenant avec la nouvelle réforme. Ça va être sympa aussi, parce que ça va être le carnage social, parce que Darmanin nous parle de ça, mais on est sur un carnage social. Et je voudrais rebondir là-dessus pour dire l'inanité de ce genre de proposition. L'inanité. J'insiste. Il nous dit, on donnera des cours de français à ceux qui ne parlent pas la langue. Est-ce qu'il faut rappeler à Gérald Darmanin qu'à nous le dernier, c'est pas son ministère, mais on a fait des speed dating pour recruter des enseignants? Non, mais est-ce qu'on est, on est chez les dingues dans ce pays?
J'adore Nicolas Vidal et son sens.
On est chez les dingues. Le mec, ouais, ils sont pas
ça,
capables.
Anthony.
Ils forment vraiment version McDonald's des gens qui, la société civile, un arboriste, un jardinier, un pizzaïolo à devenir enseignant en 3 jours. Et puis, ils nous disent que sur ce projet de loi, on va peut-être donner des cours de français pour, à un moment donné, hausser le niveau de la langue pour les gens qui viendraient travailler sur ces métiers en tension. Mais ces gens se moquent de nous. Se moquent de nous. Franchement, ils se moquent de nous.
Ils préparent 2027.
Ah ouais, Philippe Ndjibouyaki.
Il prépare le chaos, ces gens, oui.
Il est déjà en pré-campagne pour 2027.
Et on est comme on est en direct, il est 19h10, 19h11. Vous savez qui vient de féliciter le Maroc?
Le président de la République.
Mbappé qui vient de tweeter. Kylian Mbappé vient de dire en un mot, Achraf Hakimi. Il parle à son collègue.
Oui.
Collègue du PSG.
Ben oui, son collègue du PSG, effectivement.
Voilà. Donc effectivement. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'on vient de vous faire vivre avec Nicolas Vidal en direct, justement. Messieurs, je vais lancer la pub dans une poignée de minutes. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, Nicolas Vidal?
Non, tout va bien. Voilà, ces sujets-là, ils sont extrêmement intéressants. Oui. Voilà. Parce que cette histoire du Gérald Darmanin, de toute façon, on a plus confiance, je pense que les millions de Français ont plus confiance là-dedans. Et puis, c'est vraiment des sujets qui sont totalement occultés par Emmanuel Macron. Et vous voyez bien qu'Emmanuel Macron, quand il parle de ça, de l'immigration, il le parle toujours sous l'angle du travail. Et je le répète, je finis là-dessus. Emmanuel Macron, sa visée, c'est paupériser, flexibiliser, ubériser. Et si ça doit se faire avec des gens qui viennent d'ailleurs, pour les mettre dans des cuisines avec des conditions de travail déplorables, sans compter le droit du travail. Hein, le droit du travail, les amis, vous avez oublié. D'ailleurs, si vous n'hésitez pas à aller acheter votre droit du travail pour avoir un souvenir par rapport à ce que ça a été dans le temps. Mais voilà, on en est là et c'est toujours sous le même angle. Voilà.
Vous avez quelque chose à rajouter?
Ça tire à balles réelles en face.
Ah non, mais ce soir, je sais pas, mais il est venu chargé. Hein.
Heureusement qu'il
est venu chargé, Nicolas Vidal. Du foot jusqu'au commentaire de Gérald Darmanin, il y va, les amis. Hein. Allez, on marque une pause et on se retrouve toutes dans une poignée de minutes. À tout de suite.
Reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Et les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés, c'est avec Nicolas Vidal, mais également aussi avec Philippe Ndjibouyaki. Nous allons poursuivre cette dernière ligne droite, 19h18. Je vous le disais, ici même avec les deux derniers sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Je vais parler de la hausse. On parlait, du pass Navigo, Je vais m'adresser aux étudiants qui râle justement et galère, la hausse du prix qui suscite débat et polémique, et il dit en même temps il y aura un soutien de l'État. Mais est-ce que ça suffit, Nicolas Vidal?
Mais je viens de vous dire qu'à ce niveau-là, ça va être plus intéressant de prendre le Uber ou le Hitch que prendre le métro dans un moment. Hein. Franchement, pour faire des petits trajets, la réalité, c'est que une nouvelle fois, parce que moi, vu que j'habite pas qu'à Paris, je ne sais pas trop, mais je me suis renseigné. En fait, la réalité de cette forte hausse, elle est due surtout à coups de l'inflation et du tarif de l'énergie. Mmh, et l'État vous dit, Olivier Véran, émérite, Olivier Varian la science, nous dit finalement que l'État ne doit pas être de tiroir-caisse pour les transports publics. Mais la réalité, c'est que je crois qu'on en a parlé en début d'émission, la réalité, c'est que l'État est aussi responsable de l'inflation, l'État est aussi responsable du coût de l'électricité. On va pas revenir sur le tarif Arenh, on va pas revenir sur la vente d'EDF à la découpe, notamment le projet Hercule qui a été arrêté, mais la réalité, c'est que l'État est responsable de cette situation, et Clément Beaune, le nouveau ministre des Transports, le boy scout de l'Union Européenne, nous dit que il nous dit que l'État va protéger le franc CFA. Depuis qu'on nous dit qu'on nous protège, moi j'ai un peu peur. Mais la réalité, c'est que, rapidement, Adil, c'est que, grosso modo, ils doivent trouver 950 millions d'euros.
750.
Et 950, c'est que 450 millions d'euros manquent, et Clément Beaune ce soir a annoncé un petit billet de 200 millions.
C'est ça.
Mais il restera toujours beaucoup d'argent. Et il faut que le budget soit à l'équilibre d'ici la prochaine Assemblée Générale, parce que le budet ne peut être qu'à l'équilibre.
Sauf que là, la hausse du prêt, elle est inévitable.
Elle est inévitable, complètement. Et donc là, vous allez avoir une inflation des coûts de l'énergie pour beaucoup de franciliens, comme beaucoup de Français notamment.
Ouais, mais la déclaration de Clément Beaune, est-ce que ça suffit? Oui, il y aura un soutien de l'État.
Leur déclaration, autant vous dire, c'est guignolo, quoi. On est d'accord, c'est le tête de guignol, cette histoire-là.
Je sais pas, moi, je me permettrai pas de dire ça.
Moi, je suis pas particulier de ou pas, mais la réalité, c'est que, une nouvelle fois, l'État se désengage de ça, ça pose de gros problèmes, et c'est une partie aussi de la question de l'effondrement beaucoup plus total et généralisé de ce pays, et ça va poser de gros problèmes, parce que c'est demain, là. Ce budget-là, il faut le boucler dans quelques jours. Et l'État commence, d'ailleurs, vous voyez, l'État ne devait pas mettre la main à la poche, mais ce soir, Clément Beaune nous dit, Le Monde nous alerte il y a 10 minutes, que Clément Beaune mettra 200 millions. Mais ça ne suffira pas. Donc moi, je suis une nouvelle fois très inquiet, parce que c'est un symptôme aussi d'un désengagement de l'État permanent et d'un effondrement qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur et qui est effrayant, bien au-delà des sujets que nous avons évoqués précédemment. Voilà.
Philippe Nadji, bon, il y a qui? Alors, tiens.
Je suis à la région et, ouais. Et d'ailleurs, je.
Ça merci, vous concerne,
non? Mais ouais, merci infiniment, justement, Nicolas, de cette précision parce que, en ce moment, on a la gauche vent debout qui monte en disant Valérie Pécresse, c'est de la faute de Valérie Pécresse, la privatisation, etc. Je voudrais faire une mise au point. Rappelez qu'en fin de compte, les problèmes de chauffeurs de bus, métro, etc. à la RATP, c'est dû depuis la fin du statut RATP. Et je voudrais rappeler à nos amis de gauche, parce que j'étais un ancien machiniste, donc j'ai 14 ans à la régie, donc je connais un petit peu le sujet. La fin du régime spécial et du 1/5, etc. Attends, j'ai enlevé ça parce que je...
Enlever ça, c'est le masque, hein, pour les masque. Auditeurs.
Non, j'avais la tête qui tournait, là.
Ah oui
Vas-y, vas-y. Ouais. Pardon.
J'ai besoin de respirer.
J'ai vraiment besoin de respirer.
Vous avez de l'eau?
Non, j'ai de l'eau, mais c'est parce que je respirais trop mon CO2. Dire que c'était au...
Ça va bien, là ça va
beaucoup mieux. Au 1er janvier 2009, ça a été la fin du régime spécial de la RATP pour les nouveaux rentrants et rentrés en CDI. 1er janvier 2009, qui était à tête de la région? Monsieur Jean-Paul Huchon. Qui était vice-président du CIF? Monsieur Pierre Cerne, écologiste. Donc, elle est copain de gauche. Si vous voulez, on peut faire un cours d'histoire et ça va pas être aussi simple que ça. Aujourd'hui, effectivement, l'augmentation, malheureusement, Valérie Pécresse a fait une proposition au gouvernement pour pouvoir trouver de l'argent supplémentaire et le gouvernement a refusé. Il manque un billet en fin de compte de 750 millions. Clément Beaune nous dit on va mettre 200 millions, donc il manque 550 millions. Comment on fait? Demain, il y a une manifestation ridicule et puérile devant le siège de la région parce qu'Île-de-France Mobilité tiendra sa séance organisée par l'extrême gauche et que les copains écologistes ont été se fourvoyer dedans. Et malheureusement, c'est dû effectivement à l'inflation et à l'augmentation du coût de l'énergie. Donc comment on fait? Malheureusement, indéniablement, on n'a pas d'autre alternative.
Mais Valérie Pécresse, elle n'a pas fait aussi une petite sortie là en disant que...
Mais si, elle demande à l'État d'assumer ses responsabilités afin qu'il n'y ait pas d'augmentation. Et on se refuse un pass à Navigo à 90 euros. Mais quand il vous manque 550 millions ou 750 millions, on va voir
C'est beaucoup d'argent, quoi.
Comment tu fais? Le truc, il est là.
Comment tu fais?
Et Valérie Pécresse, il a raison Philippe là-dessus, bien entendu, là-dessus, on est d'accord. Et puis Valérie Pécresse, aujourd'hui, elle menace notamment de l'arrêt des paiements pour les Jeux Olympiques et notamment l'avancement du métro du Grand Paris. Donc Emmanuel Macron, je pense, moi très sincèrement, c'est notre sujet, on en parlera peut-être une autre fois, que ce Jeux Olympiques vont être de plus en plus compliqués à organiser. Mais la réalité, c'est que c'est une nouvelle fois les Franciliens les plus pauvres, les plus déshérités, les plus précaires, qui s'envoient des trajets en RER ou en métro le matin à 7h et le soir à 7h dans des conditions absolument déplorables et dégueulasses, je suis désolé de vous le dire. Et une nouvelle fois, l'État continue à laisser ça en vadrouille. Mais par contre, là où on est tranquille, les amis, c'est que le métro parisien, le RER, aura de l'électricité même pendant les coupures, puisque c'est un circuit fermé. Donc, c'est grosso modo, c'est tu bosses, tu rentres chez toi et surtout... Voilà, et c'est très 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 emmerdant. Voilà, concrètement.
Ah là là, ça s'annonce effectivement. Enfin bref, moi j'ai eu beaucoup de messages justement des étudiants qui commençaient à se plaindre, notamment Anthony, notre réalisateur, qui disait ah non mais comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va s'en sortir? C'est vrai, c'est une réalité. Allez, 19h24 précisément. J'aimerais quand même qu'on aborde ce sujet, aussi qui est préoccupant. C'est la guerre en Ukraine, vous savez, avec à la fois Zelensky qui nargue Poutine, mais de l'autre côté aussi Poutine qui lui, dans sa voiture évidemment Mercedes. Se rend sur le pont de la Crimée.
Sur le pont de Crimée, effectivement, on a vu Vladimir Poutine. Et
interprétation dans les deux sens.
C'est de bon ton, c'est le dénominateur commun, c'est la communication. Vladimir Poutine, filmé par une caméra à l'arrière, qui est sur le pont et qui conduit pour montrer que le pont est solide, qu'il a été refait en temps record. Je veux dire, c'est assez classique et c'est assez classique de l'autre côté aussi. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a rien d'extraordinaire à avoir un président russe qui fait de la com pour montrer effectivement que la Russie est puissante et que la Russie a reconstruit très très rapidement avec des centaines d'ouvriers ce pont qui est stratégique. Hein. C'est vraiment un pont stratégique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été, on l'a fait sauter, on l'a dynamité. Mais j'ai envie de vous dire que quand on voit de l'autre côté, du côté OTAN, du côté européen ou du côté américain, c'est à peu près la même sérénade. C'est com contre com et fake news contre fake news, propagande contre propagande. Enfin, ça a jamais changé. Quand vous avez des conflits de cet ordre-là, forcément, vous avez un plan de la communication pour essayer de rallier les troupes.
Nicolas Vidal, vous connaissez évidemment et vous avez suivi cette guerre en Ukraine, elle est partie pour durer longtemps.
Ce qu'on sent aujourd'hui, c'est que ce que je peux dire, c'est qu'on a quand même l'impression que Zelensky commence à être un peu lâché, notamment par les Américains. Voilà, on sent qu'à un moment donné, il y a quand même une mise à distance de Zelensky, mais par les Américains. Mais ce qu'on doit noter aussi, c'est pour nous, parce que dans une guerre, la réflexion qu'on doit avoir, au-delà des bons sentiments, de la barbe à papa, du bisounours, c'est très très bon d'un côté, il est très 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 méchant de l'autre. Vous savez, c'est le côté manichéen que je déteste, parce que c'est toujours beaucoup plus complexe. On va pas rentrer là aujourd'hui dans l'histoire de cette guerre en Ukraine, mais la réalité, c'est les sanctions contre la Russie aujourd'hui nous reviennent en pleine face, pour être tout à fait poli. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que, rappelez-vous Bruno Le Maire qui nous a dit, fier comme Artaban, nous allons mettre l'économie russe à genoux, aujourd'hui nous allons le payer. Information, ce matin l'Union Européenne a mis aujourd'hui ses sanctions, notamment sur l'apport de pétrole russe oui. par voie maritime.
Oui.
D'accord ? On nous dit, vous inquiétez pas, on a prévu. Enfin, si vous avez prévu comme le Covid, et si vous avez prévu comme avec la crise énergétique, on est mal barré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prix du pétrole va augmenter, ça veut dire qu'il y a forcément une pénurie de diesel. Comment font nos camionneurs, comment nos transports routiers acheminent, chers amis, chers auditeurs et auditrices, dans les supermarchés, dans vos hypermarchés, pour manger ? C'est les camionneurs, c'est les transports routiers. Donc tout ça fait qu'on est toujours une espèce de surenchère de sanctions anti-russes, peu importe, quelle que soit notre position sur la question. La réalité, pour finir là-dessus, Adil, c'est quels sont nos intérêts, où sont nos intérêts et à quel point ces sanctions frappent notre population et touchent qui la précarisation des plus faibles de ce pays. C'est ça la réalité, parce que les Français, c'est eux qui en prennent plein la bouche. Voilà, la crise énergétique et tout ça, c'est les Français les plus déshérités.
La crise énergétique, c'est eux.
Voilà. C'est les Français, c'est ouais. les Français abandonnés qui en prennent plein la tête. C'est la France des quartiers, c'est la France, les millions de Français qui en souffrent tous les jours. Voilà. Dans les bons sentiments,
il y a eu des coups de com' dans les deux sens. Je dirais plutôt à l'avantage de Zelensky qui est dans le Donbass, alors que Poutine est sur le pont de la Crimée, mais du côté russe et pas du côté ukrainien. Pas du côté Crimée, mais pour moi la Crimée c'est
de la provoque de la part de Zelensky.
Ah non, c'est oui, bah, forcément côté russe ne peuvent le prendre comme provoque en disant regardez, oui, on est au Donbass, qu'est-ce qu'il y a, vous êtes où vous et en même temps pour remonter le moral des troupes, c'est pendant la guerre du Vietnam, pendant toutes les guerres, la guerre de Corée, etc. La source médiatique c'était le cinéma, on envoyait des pin-up chanter pour remonter le moral des GI, on donnait des informations, on disait qu'on avançait et qu'on gagnait du terrain alors qu'ils en perdaient. Ça joue aussi sur le moral des troupes. Et en même temps, c'est envoyé aux circoncis russes, on disait, vous avez vu, on est en train d'arriver tout doucement, et donc si le moral des troupes est en berne, bah, la victoire, elle ne peut être que là. Et en plus, vous avez vu qu'aujourd'hui, les Russes ont reconnu que des drones ukrainiens avaient frappé à plus de 300-400 km, et on parle de drones des années 60.
Exact.
Donc, j'ai peur que ça monte en escalade.
Vous êtes d'accord, Nicolas Vidal ?
J'ai peur que Poutine en fasse...
On nous promet effectivement l'escalade depuis un certain nombre de mois maintenant, puisque je vous rappelle que c'est le 24 ou 27 février que la Russie envahit le Donbass, concrètement. Et aujourd'hui, on verra bien, mais je crois que personne n'a intérêt. Et puis, le seul problème de nous, c'est qu'on est on est presque co-belligérants, puisque il faut quand même dire à nos auditeurs que nous livrons des armes à l'Ukraine, notamment les canons César. C'est ultra cher en canon César. Hein, donc, on ne sait pas faire marcher nos centrales, mais par contre, les canons César, on en livre en Ukraine. C'est absolument formidable. Les mecs sont géniaux. Bientôt, ce sera les fours à pain, ça sera les machines à laver, c'est formidable. La réalité, c'est que aujourd'hui, c'est que les Américains nous laissent dans la panade. Parce que les Américains, c'est suivez l'argent.
Nous laissent dans la panade.
Ben, bien sûr, parce que les Américains vont nous vendre maintenant quoi ? Du GNL. Donc Bruno le rigolo, le bien dénommé Bruno Le Maire, est allé à Washington récemment, à un moment donné, pour essayer de négocier les Américains des prix à peu près corrects. Mais la réalité, c'est que les Américains, aujourd'hui, nous vendent très cher un truc dont on a besoin parce qu'on s'est flashé avec Vladimir. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on va continuer à avoir des pénuries énergétiques. Donc je pense que c'est toujours la même question, je finis par là, Adil.
Oui.
C'est où sont nos intérêts ? La souveraineté de notre pays, la grandeur d'un chef d'État, c'est où sont nos intérêts ? Et la réalité, c'est que la voie diplomatique de la France ne pèse plus rien du tout. D'ailleurs, je vous invite à lire la presse internationale. Emmanuel Macron n'est pas sous son meilleur jour dans les médias internationaux, malgré ses déclarations grandiloquentes à la télé pour dire qu'il y a la marre de la stratégie de la peur.
Merci à vous, Nicolas Vidal, Putsch Media. À voir et revoir. Rappelez-nous tout.
Putsch Media, le site, la chaîne YouTube, les amis, on est 117 000, beaucoup d'émissions. Et après, on est sur tous les réseaux, on est sur Telegram, on est sur Facebook, sur Instagram, on est sur Facebook et Twitch, et Twitch aussi. Voilà, vous savez.
Il y a quand même pas mal de censure hein, sur ton média.
Oui, on a été beaucoup censuré. On a été censuré sur Facebook, on a été censuré sur Twitter. On a deux comptes Twitter qui ont sauté et on a été énormément censuré sur YouTube. Apparemment, la liberté d'expression, c'est pas la chose la mieux
mais là,
partagée.
Sur Twitter, ça devrait revenir sans problème.
Ben, on verra bien. On verra bien. En tout cas, on a.
Vous reviendrez ?
Avec grand plaisir.
Partagez, cher Nicolas Vidal.
Merci beaucoup.
Merci en tout cas. C'était un plaisir et merci pour ce moment footballistique.
Ben merci. C'était avec plaisir aussi.
En plus, vous avez marqué l'histoire parce que c'est leur première dans l'histoire.
Eh ben voilà, mais j'en suis ravi. J'en suis ravi.
Je parle des quarts de finale, quart de finale. Philippe Nadjiboyeke, à très vite.
À très vite.
Conseiller régional, à
très
vite. Absolument. À la réalisation, c'était Anthony. Je vois juste derrière, en arrière-plan, le retour de Giovanni.
Il y a beaucoup de
Giovanni. Comment ça va, Giovanni ? Et puis, Oui.
Salut.
Ça va. Voilà, très bien. Nous voici le voilà.
Salut, salut.
Time Sport dans une poignée de minutes, ici même, en direct. Time Sport, donc, qui va vous faire vivre justement cette victoire marocaine face aux Espagnols. Donc, direction la Coupe du Monde à Doha, au Qatar, chers amis, avec Bilal Nedman et son équipe. À demain avec autant de plaisir, mais surtout.
On ne lâche rien.
On ne lâche rien.
On ne lâche rien.
Jamais. Bien sûr.
Et bye bye, Bilal. Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.